suis Ivatou, président du Comité mondial pour les apprentissages tout au long de la vie. J'ai été l'initiateur avec plusieurs de mes collègues de ce comité mondial en 2005. Le Comité mondial pour les apprentissages tout au long de la vie est une organisation non gouvernementale qui a pour objectif de mener des actions et une réflexion sur l'éducation, la formation tout au long de la vie en fait. Ce nouveau concept qui avait été un peu initié par Jacques Delors, vous savez, il avait fait un rapport à l'UNESCO en 1996 dans lequel il y déclarait l'éducation tout au long de la vie sera la clé d'entrée du 21e siècle. Donc on s'est beaucoup intéressé à ce sujet depuis 2005, en fait on est créé. Nous sommes une équipe au départ, une équipe française, de pluridisciplinaire avec des gens de l'éducation nationale, des ingénieurs, des chefs d'entreprise, des consultants. Donc notre idée était de, à partir de cette équipe généraliste, de s'ouvrir à l'international. On a fait deux forums mondiaux, un à l'UNESCO en 2008 et un à Shanghai en 2010, dans le cadre de l'exposition universelle. Et nous préparons le troisième forum mondial à Marrakech en 2012. Et puis, comme nous le demandait l'UNESCO, nous avons développé un réseau international dont nous sommes aujourd'hui, au moment où je vous parle, représentés dans 70 pays. Nous avons des délégués qui relaient un peu notre action et qui nous font remonter en quelque sorte l'évolution de ce concept d'éducation tout au long de la vie. En tant que comité mondial, nous sommes intéressés à ce sujet parce que nous sommes des professionnels, avant tout, professionnels de l'éducation, professionnels de la formation, professionnels de l'entreprise. Et en fin de compte, on s'est aperçu en 2005 que tout le monde, à l'unanimité, disait qu'il faut apprendre tout au long de la vie. Bon, donc d'accord, nous aussi, on était d'accord, puisque nous sommes des acteurs de la formation continue. Mais après, en creusant le concept, on s'est aperçu que tout le monde ne disait pas la même chose derrière les mots. Donc on travaille à ce concept en collaboration avec l'UNESCO pour essayer de formaliser un peu un concept qui serait admis par l'ensemble des acteurs internationaux. Quand je dis acteurs internationaux qui s'intéressent à la question, il y a l'UNESCO, il y a l'OCDE, il y a la Banque mondiale, il y a le Forum social mondial, oui. Et puis émergent d'autres organisations, dont une aujourd'hui la fondation du Qatar. Le Qatar s'intéresse beaucoup. L'Arabie Saoudite et le Bahreïn, ce qui est assez original, mais tous ces pays-là s'intéressent à l'éducation, à l'innovation et à l'éducation du futur. Voilà. Donc le comité mondial a vocation à avoir une vision globale de l'éducation et de la formation. Donc nous sommes sortis un peu de notre sphère française et nous tentons d'avoir une vision globale et nous essayons de comprendre un peu les grands mouvements actuels du secteur de l'éducation et de la formation depuis 5 ans. Il y a une crise de l'emploi mondiale, l'économie globalement ne crée plus d'emploi et la formation devient un outil d'insertion professionnelle. Autant pour les étudiants que pour les parents, que pour les gouvernements, que pour les élus. La formation qui a été longtemps un outil de promotion sociale devient maintenant un outil d'insertion professionnelle. Elle devient très orientée vers l'emploi. Et donc, dans beaucoup de pays, les parents deviennent très exigeants pour que les enfants réussissent parce que ils pensent à juste titre que l'éducation va leur garantir un emploi à vie. C'est un peu la tendance notamment qu'on voit dans les pays asiatiques, notamment en Corée du Sud, parce que la Corée du Sud est souvent, dans notre secteur, est souvent citée comme un numéro un de la formation tout au long de la vie. Et en fait, on s'aperçoit que la population est très mobilisée, les parents, et jusqu'à stresser les enfants, pour qu'ils apprennent, qu'ils acquièrent une qualification pour l'emploi. En fait, nous, on pense que cette demande, elle est liée surtout au problème de l'emploi. Sur l'intervention publique, ce que je vais développer, ça résulte de la Conférence internationale d'éducation des adultes, qui avait lieu, la 6e conférence, organisée par l'UNESCO à Belém, au Brésil. Donc il y en a eu 6 depuis 1945, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et la dernière, la sixième conférence, la dernière à Belém, constatait que l'intervention publique, l'intervention du service, de l'État et du service public était en recul globalement. Et donc, ils expliquaient ce recul par le fait que, en fait, les gouvernements confient des missions de service public, en fait, à d'autres organismes. Alors, est-ce que c'est dans la sphère publique ? Pas, mais ils confient des missions de service public à des organismes privés, religieux, associatifs. De plus en plus, il y a des pays où... Alors, globalement, quand même, l'intervention publique reste dominante, partout. Il y a même des pays où le service public est gratuit, de la maternelle jusqu'à l'université. Il y a encore beaucoup de pays qui ont, notamment même en Afrique, ça existe encore. Mais globalement, on constate que, une grande partie du secteur de l'éducation devient privé, en fait, devient se marchandise, quoi, en quelque sorte. Et donc, il y a un vrai problème qui est simple à expliquer. C'est que, par exemple, si on prend le cas des universités, les universités françaises sont financées sur fonds publics et donc n'ont pas de politique de marketing. C'était la raison pour laquelle Claude Allègre, quand il était ministre de l'Éducation, si vous vous rappelez, il avait créé une agence pour que les universités françaises aillent dans les salons internationaux défendre leur université. Et ça s'appelait l'agence, je ne me rappelle plus, l'agence de développement, enfin bon, pour la promotion. Et a contrario, les universités anglo-saxonnes, par exemple, ont des politiques de marketing. Ils sont financées par des fondations beaucoup, par des financements privés, et ont des politiques de marketing. Ça veut dire que la conséquence est très simple, c'est qu'elles se battent pour avoir les meilleurs étudiants de chaque pays. C'est pour la raison pour laquelle aussi, d'ailleurs, beaucoup d'étudiants des pays en développement, ou même de Chine ou d'Inde, choisissent plutôt les universités anglo-saxonnes que les universités françaises. Ils vous disent aussi que, pour eux, les universités françaises comme la Sorbonne, qui est très connue, ce sont plus des opportunités culturelles. Alors que les opportunités économiques et les opportunités en termes de management et de gestion, c'est plus les universités anglo-saxonnes. Ça, c'est pour expliquer un peu cette évolution. À cela se rajoute que les universités, les écoles et les politiques gouvernementales sont en compétition dans la mesure où elles sont classées de plus en plus. Il y a des classements. On vous dit, voilà, la Corée du Sud, la Finlande est première, la France est 20e. Bon, et donc, étant... Malgré tout, c'est un petit championnat du monde, quoi, parce que, en fait, c'est pas dit comme tel, mais enfin, comme il y a un classement et que tout le monde essaie de s'adapter au classement et puis de monter dans le classement, il y en a même qui sont fiers d'avoir gagné des places, C'est ce que disait le gouvernement allemand, ils avaient progressé. Donc, étant en compétition, évidemment, les systèmes éducatifs ont tendance à plutôt se tourner vers des politiques de marketing, de management, voilà. Donc, ça veut dire que, pour nous, Cette évolution est un peu aux antipodes de nos valeurs culturelles françaises. L'école de la République, laïque, gratuite, obligatoire. Ce que je viens de décrire, c'est un peu aux antipodes de nos valeurs. C'est pas ce qui est en train de s'organiser au plan mondial, c'est pas du tout l'école de la République qu'on a connue sous Jules Ferry. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous Français, qui avons été formatés en quelque sorte dans l'école publique. L'école publique, on est confronté à un nouveau système qui n'est pas du tout notre culture. Et en plus, ce système de classement nous place dans des positions difficiles, puisque en fait, compte tenu que l'école française est mal classée, automatiquement les acteurs essaient d'aller en Finlande, voir ce qui se passe, d'aller en Corée du Sud, d'aller voir un peu dans les pays où on pourrait tirer parti pour faire évoluer notre système. Mais pour résumer, en fait, le système public, aujourd'hui, doit faire face à une évolution qui est contraire, en quelque sorte. On n'a pas la tendance, l'évolution ne va pas vers un service public gratuit, laïque et obligatoire. Il se passe beaucoup de choses. Pour nous, il y a une révolution numérique, une révolution éducative, pardon. Une révolution éducative dont on ne perçoit pas vraiment les débouchés. Quand on dit révolution, ça veut dire qu'il y a un nouvel ordre qui se met en place, qui est irréversible. C'est ça, le principe de la révolution, c'est qu'un nouvel ordre se met en place. Mais là, on n'a pas de perception exacte de ce qui se passe, de cette nouvelle architecture. On a déjà des éléments, on voit ce que ça pourrait être, on voit comment on pourrait apprendre en 2050, hein, disons, comment ça va évoluer, mais on n'a pas on reconnaît qu'on n'a pas de vision précise. Il y a quelques éléments dans notre observation qui sont clairs. C'est que, un, cette nouvelle architecture sera transnationale, mais en même temps territoriale. C'est qu'il y a deux mouvements un peu contradictoires, mais aussi complémentaires. Il y a un retour vers le territoire, quand on dit ville apprenante, région apprenante, entreprise apprenante, mais en même temps, il y a une déterritorialisation dans le virtuel. C'est-à-dire que on a dans cette nouvelle architecture, on voit le territoire réel, physique, mais on voit aussi se développer ce qu'on appelle un réseau virtuel, en fait, un réseau mondial d'apprentissage tout au long de la vie, mais qui touche aussi les gens directement. Puisque toute personne qui a un ordinateur comme vous et une imprimante et un accès au réseau, il a ce qu'on appelle un espace personnel d'apprentissage. La deuxième tendance observée, c'est que les nouvelles technologies, l'enseignement à distance, prend beaucoup de place, mais c'est controversé. Ce qu'on appelle le e-learning, hein, l'enseignement à distance, et se développe, il y a beaucoup d'offres, hein, d'offres privées, d'offres publiques, le CNED hein, chez nous, c'est controversé quant à son efficacité, quant à son organisation. Ce qu'on observe, nous, très clairement dans cette nouvelle architecture, c'est clair et c'est admis par tout le monde, c'est qu'on va vers des dispositifs hybrides. Hybride, ça veut dire qu'on aura du présentiel avec un professeur ou un intervenant, du e-learning, en partie du e-learning, du tutorat électronique, si on peut échanger avec le professeur régulièrement par mail, et même de l'évaluation en ligne. Vous savez, il y a des entreprises qui font déjà de l'évaluation en ligne, hein, qui vous permettent de... Voilà. Deux exemples pour terminer cette vision qu'on a du monde, c'est même trois exemples. Il y a une société qui propose des cours d'anglais à nos enfants français par Skype, fait par les étudiantes indiennes, puisque c'est par Skype, hein, qui sont payées 2 euros de l'heure. Donc aujourd'hui, vos enfants peuvent s'inscrire, hein, je ne vous cite pas le nom de la société, mais vous imaginez, peuvent s'inscrire, faire des cours de conversation d'anglais avec des étudiantes indiennes par Skype. Deuxième exemple, aujourd'hui, nous, en France, on est un peu rétif à l'introduction des nouvelles technologies dans les examens, par exemple. On dit tout de suite, sortez vos portables, pas d'Internet, vous savez, les fraudes au bac. Mais au Danemark, ils font le contraire. Ils demandent aux étudiants d'avoir Internet, accès à Internet au baccalauréat. Ce qui est quand même assez original, quoi. Donc, non seulement ils demandent aux élèves d'avoir Internet, mais ils les jugent à leur capacité à aller capter l'information, en faire la synthèse et en restituer l'élément. Troisième exemple de cette nouvelle architecture, c'est un exemple assez important, c'est ce qu'on appelle le Pan-African Network for Tele-Education and Telemedicine. Le gouvernement indien, l'ancien Premier ministre indien, propose aux 54 pays de l'Union africaine de transférer la technologie et les meilleurs contenus des universités indiennes, notamment celle de New Delhi, à l'ensemble des 54 pays de l'Union africaine, par satellite et par les nouvelles technologies, évidemment. Voilà, trois exemples qui nous donnent quelques idées de ce que pourrait être la nouvelle architecture.
À propos de l'enseignement à distance, il me semble qu'il faut quand même voir ses avantages et ses limites. Ses avantages, c'est que cela permet d'avoir accès à des formations rares. Un bon exemple, c'est dans l'est de la France, où on vient de mettre en place un système d'enseignement à distance pour le latin. Le latin, finalement, beaucoup d'élèves en France en font, mais en proportion de l'ensemble des élèves, cela fait très peu. Et dans beaucoup d'établissements, il n'y a pas suffisamment d'élèves pour justifier un enseignant. Donc, dans l'est de la France, ils ont mis au point un système, justement, à base de Skype, qui permet de mettre en relation des professeurs avec des étudiants dans le domaine du latin, des langues rares. Le latin, le grec et d'autres d'autres disciplines qui sont peu demandées dans des établissements dispersés. Et là, il y a une piste tout à fait intéressante parce que c'est la diversité qui compte. Et là, comme il n'y a pas d'offre possible, on s'aperçoit que l'enseignement à distance permet d'aller plus loin, permet de personnaliser l'enseignement, alors qu'autrement, il n'y aurait rien. Alors ça, c'est un premier aspect. Mais le deuxième aspect qui est tout à fait important, c'est l'aspect médiation. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a eu des difficultés à mettre en place, à mettre en ligne des ressources. On a dépensé beaucoup d'énergie à mettre ces ressources en ligne. Et on s'est dit, une fois les ressources en ligne, le travail est terminé. Bien non, le travail commence. Parce que ce qu'attend un étudiant, c'est une relation. Et cette relation-là, elle peut se faire à distance, à condition que les enseignants prennent en compte la distance. Et la distance n'est pas du tout supprimée par la distance, et par la technologie. Elle est toujours là. Et supprimer la distance, la réduire, ce n'est pas la nier, c'est au contraire s'en servir. Et s'en servir, c'est créer de la médiation, créer des méthodologies qui permettent aux personnes de s'autonomiser plus qu'elles ne le feraient autrement, et par ce biais-là, mettre en exploitation le maximum de ressources. Et là, il y a vraiment une voie à creuser, mais qui est encore en développement, ce qui explique la raison pour laquelle aujourd'hui la formation à distance, ça fait 40 ans qu'on en fait, la formation à distance a encore du mal à convaincre beaucoup d'enseignants pour ces raisons-là. Potentiellement, il y a une grande demande. Potentiellement parce que ça coûte cher de se déplacer, ça coûte cher de bloquer du temps. Et par exemple, on voit à l'étranger, beaucoup d'étudiants de l'enseignement supérieur ont un travail temporaire ou même parfois à temps complet et suivent donc l'enseignement en même temps qu'ils travaillent. Et là, manifestement, l'enseignement à distance permettrait de faciliter l'accès à l'enseignement supérieur à tous ces étudiants qui travaillent et qui ont peu de temps pour se déplacer concrètement. Ce qui ne veut pas dire que ça supprime les déplacements, parce que bien entendu, il faudra rentrer dans les cohortes d'étudiants pour rentrer dans l'ambiance de l'université. La motivation, elle est très liée à cette présence dans le campus. On fait partie d'une cohorte. Et cela, la formation à distance ne doit pas l'oublier. Donc on ne peut pas faire toute distance. C'est forcément de l'hybride, mais dans un contexte où les étudiants travaillent, je pense que l'enseignement à distance permettrait de faciliter fortement l'accès à l'enseignement supérieur.